Donc, je vais déjà vous donner, comme j'ai un temps relativement limité, je vais être brève, je vais vous donner comme exemple une petite anecdote de la vie de tous les jours, quelque chose de tout à fait simple, rien de scientifique. C'est l'histoire de Maryse et Paul, on va les appeler comme ça. Maryse, c'est la maman, Paul, c'est le petit garçon. Maryse est une maman qui a été terriblement malmenée au niveau du respect en elle quand elle était petite, par un père hyper autoritaire, par un père très, très rigide, qui l'a peu respectée. Et cette petite fille a eu cette ancienne petite fille, une fois mère, a eu un petit garçon qui est devenu à 6 ans autoritaire, opposant, coléreux. Disons que les deux partenaires se sont rencontrés avec un passé d'enfant très différent. Tout simplement une mère qui n'a pas suffisamment été écoutée et qui tombe dans le piège de la maman qui écoute trop son enfant et qui en a fait un enfant roi. Tout ça pour vous dire que le travail que nous allons poursuivre ensemble là est celui d'allier très subtilement deux tendances pièges, celle d'en faire trop ou celle d'en faire trop peu pour son enfant. Cette mère, on n'en a pas fait assez pour elle et malheureusement, elle en fait trop pour son enfant. Donc, comment faire la part entre parents et éducateurs? Comment faire la part entre le trop, le trop peu, l'autoritarisme ou le laisser-faire? Comment faire la part entre ce qui doit être vécu par l'enfant, même s'il n'est pas content, et ce qui, au contraire, doit lui être évité pour l'empêcher et qui doit lui être évité pour lui permettre de grandir correctement? Donc, comment faire la part entre les blessures inévitables à l'autonomie et les blessures à éviter? Bon, je vais commencer donc par ces blessures, entre guillemets, inévitables, dont il ne faut pas déposséder l'enfant. Nous savons tous, c'est la vie, que la vie est une suite de moments transitoires, de phases à dépasser, d'avancées, de reculs, de mouvements incessants, faits de douleurs et de joies, un peu comme la mort et la vie continuellement présentes, des petites morts, des moments de bonheur, des moments de profonde douleur et dépression dont je parlerai tout à l'heure, mais c'est la vie. La vie n'est faite que de rituels de passage, comme un peu la nature et ses saisons, qui passent de l'hiver à l'été, ou passant par le printemps. La vie n'est faite que de successions de séparations, de gains et de pertes, de frustrations, de deuils divers, petits et grands. Et je crois que quand on empêche notre enfant dès la naissance de se préparer à cette vie qui est faite ainsi, on ne l'aide vraiment pas. Et ces frustrations et ces petites douleurs indispensables interviennent dès la naissance. Déjà, dès la naissance, le bébé qui arrive du ventre de sa mère connaît la faim, la soif, la loi de la pesanteur, les changements de température. Mais heureusement que cette douleur, entre guillemets, intervient, sans ça nous mourrions dans le ventre de notre mère, complètement asphyxiés, complètement incapables de survivre. Donc, je vais citer quelques stades comme ça de l'enfance qui lui permettent de grandir. Bien sûr, il y en a de multiples qui ont été étudiés par de nombreux spécialistes, donc je les survole très rapidement. À 7 ou 8 mois, intervient un autre stade, difficile pour l'enfant, mais indispensable, le stade du miroir. Le stade du miroir, c'est l'époque où il se différencie de sa mère, avec laquelle il était jusque-là relativement encore en symbiose. C'est-à-dire que le petit enfant qui se regarde avec sa mère dans le miroir se retourne et s'aperçoit que sa mère n'est pas lui. Il se retourne, tiens, les voilà tous les deux. Enfin bref, il arrive à se différencier de sa mère et voir que son image n'est pas la sienne. Et c'est une des épreuves qu'il va avoir à traverser pour s'apercevoir qu'il est seul. Et là, l'expérience de la solitude intervient. Elle nous sera bien utile pour plus tard, car ô combien de fois nous sentirons-nous seuls. Mais le doudou, je ne vais pas m'y étendre, mais le doudou, heureusement, pourra l'apaiser. Il y a toujours moyen de s'apaiser avec quelque chose. Et puis, d'autres phases vont bien sûr se succéder, toujours face à la perte, à la séparation, au deuil de l'épreuve précédente. Et surtout, toutes ces phases vont permettre à l'enfant de quitter sa sensation de toute puissance, de quitter l'idée qu'il avait d'être le maître du monde, et notamment sur sa mère. Il va s'apercevoir que malheureusement, il n'a pas tout le pouvoir en main pour avoir la manipulation de l'univers. Et puis, on continue. Il y a la phase de latence, cette phase qui se situe selon les différentes écoles, mais disons entre 7 et 12 ans à peu près, cette phase qui précède l'adolescence, cette phase qui implique le sérieux, l'accumulation des connaissances, l'éloignement de la spontanéité, l'école avec tout ce qu'elle représente comme effort intellectuel. Et puis, autre phase, l'adolescence, bon, que l'on connaît tous, je ne vais pas m'apesantir dessus, simplement dire que Françoise Dolto a bien défini ce qu'était que l'adolescence avec son livre qui est très, très vieux mais qui est réédité sans arrêt, Le complexe du homard, cette mue inévitable pour grandir. Donc voilà, quelques phases parmi tant d'autres qui ne doivent pas être volées à l'enfant pour le faire grandir, qui font bouger parents, qui font bouger enfants, mais qui doivent être vécues, bien sûr, le plus harmonieusement possible.